Voici encore une autre réflexion, mais cette fois, nous allons vers les préfaces et idéaux et nous abandonnons le caractère et la concision de la préface Perm Quem Majestatem. Voici ce que dit ce nouveau style, de préface. C'est pourquoi et idéaux, avec les anges et les archanges, avec les trônes et les dominations, avec la troupe entière de l'armée céleste, nous chantons sans fin l'hymne à votre gloire. Ce schéma type de préface et idéaux, on le voit, n'a plus la moindre correspondance avec les normes traditionnelles jusqu'ici décrites. L'origine de cette disparité conceptuelle entre textes sacrés de même nature ne résulte pas fatalement d'une évolution qui, dans le temps, modifierait à ce point les caractères. Elle peut provenir en l'espèce d'une relation théologiquement plus forte avec les anges. Il faut donc la voir et réfléchir sur la relation homme-ange. Cette relation n'est parfaite que de la révérence des premiers envers les seconds. Elle se double aussi de la conscience de la protection reçue et de l'engagement constant de ces êtres invisibles auprès de ceux qui vivent sur terre. Louis Bouilhet rappelait avec excellence que les vieillards de l'Apocalypse johannique étaient des anges et qu'ils offraient à Dieu des coupes pleines d'or, pleines de parfums qui sont la prière des saints. Mais ce thème n'est pas seulement néo-testamentaire. L'archange Raphaël disait aussi à Tobie, « Quand toi et Sarah, ta belle-fille, vous priez, j'apportais le mémorial de vos prières devant le saint. » En d'autres termes, la relation homme-ange se combine mystérieusement d'un rapport Dieu-ange que concrétise assez bien Louis Bouilhet. L'ange rend Dieu présent localement tout en sauvegardant sa transcendance. Mais quand se développe la Los Divina, l'Église militante, guide des âmes, fidèle, se retrouve face à des êtres de perfection et de béatitude éternelle. Comment nos âmes fidèles, restées fragiles à l'égard des tentations, pourraient-elles même entonner les hymnes de louange d'être si purs et si proches de Dieu ? La notation de Tertullien, dès le IIIe siècle, on en a parlé, s'inscrivait dans le droit fil de cette interrogation. C'est pourquoi, rappelait cet auteur, si nous méritons de nous associer aux anges pour le chant du Sanctus, nous apprenons dès ici-bas cette divine parole envers Dieu et le devoir de la future gloire. L'Église de Rome ne pense guère autrement qu'en tant suppliante, elle ose demander à Dieu l'union des voix des pécheurs à celle des anges pour le chant du Sanctus, prélude à l'accomplissement du mystère rédempteur. Dieu n'est pas seulement créateur des hommes et des anges, Dieu sauve aussi par sa grâce miséricordieuse, et là se trouve la clé du dilemme. Alors, quelle va être la solution liturgique ? La très remarquable étude que le révérend frère Taft a consacrée à l'interpolation du Sanctus repose en effet sur les multiples recherches de documents entreprises par les auteurs dans les régions christianisées au IVe siècle. Principalement, en fait, les communautés orientales, puisque Rome ne modifiera sa liturgie qu'au tout début du siècle suivant. Or, de cette étude émerge une première information, la présence d'un chant du Sanctus généralisé dans la Prex Eucharistica et introduite par une évocation des chœurs angéliques. L'hymne a été emprunté par les premières communautés chrétiennes au patrimoine des offices nationaux de la synagogue. Parmi les textes rassemblés, un premier document témoin proposé par Mr. Shepherd, est d'origine palestinienne. Datation approximative, 317 après Jésus-Christ. L'extrait suivant est tiré d'un sermon d'Eusèbe de Césarée, de 263 à 339. Eusèbe de Césarée, qui fait ce sermon prononcé lors du sacrement épiscopal d'un certain Paulin à la cathédrale de Tyr. Entre guillemets, des foules innombrables d'anges rassemblés et l'église des premiers-nés enrôlés dans le ciel glorifient leur Créateur avec des louanges qui dépassent notre possibilité d'expression et de compréhension, et que nul ne peut traduire dignement par une hymne. De toutes ces choses, nous avons été trouvés dignes maintenant. À l'évidence, ce texte de Zeb vise le Sanctus, mais dans sa formulation. Il est très proche de la liturgie de Saint-Jacques à Jérusalem, avec l'évocation particulière de l'église des premiers-nés enrôlés dans le ciel. Il exprime surtout chez Zeb la conscience d'une indignité à chanter le Sanctus qui se meut soudainement en dignité, ce qui est totalement contradictoire. Le révérend père Taft pense que cette contradiction est due à un ajout tardif dans le texte initial. En réalité, si Eusèbe sait que l'hymne du Sanctus ne peut pas, par ses caractères sacrés, être reprise par l'Église militante, une modification postérieure de son affirmation ne serait-elle pas le signe d'une décision ecclésiale survenue entre-temps ? Un deuxième document témoin de l'étude de Taft confirmerait cette hypothèse. Il est daté de 337 et provient de l'antique province chrétienne de Cappadoce, actuellement citée en Turquie. Jusqu'à présent ignoré, ce document a été proposé par un auteur, Hans-Jörg Aufdermor, suédois, parce qu'il regroupe un ensemble d'homélies prononcées dans la région par un certain Asterios Sophistes, un chrétien converti du judaïsme et passé ensuite à l'arianisme. Ajoutons que chacune de ces homélies a été donnée dans un cadre liturgique et que l'homélie 15, dont le texte suit, correspond à la messe de la vigile pascale. Dans la bouche d'enfants et de nouveau-nés, des louanges ont été préparées. Voyez ces néophytes nouvellement baptisés, semblables à des enfants immaculés, conçus d'en haut. Voyez comment ceux qui auparavant se souillaient la bouche avec des chants impurs chantent maintenant des psaumes sous la mouvance de l'Esprit-Saint. Ils chantent aussi pour la première fois l'hymne des fidèles, et adressent en haut des louanges qu'ils n'ont jamais entendues. Cet hymne dit des fidèles serait donc le Sanctus. Et en effet, il a toutes les chances de l'être, car le contexte de la citation révèle que l'hymne dont les louanges n'ont jamais été entendues par les nouveaux baptisés se situe naturellement dans la prière eucharistique, loin du renvoi des catéchumènes. Mais pourquoi donc avoir dépossédé les séraphins de leur chant pour le confier aux nouveaux baptisés ? La réponse est claire. L'Église entend montrer que la victoire du Christ sur la mort a réuni terre et ciel en un seul cœur. Par le baptême, les néophytes paraissent avec la pureté des enfants nouveau-nés. Quasimoto geniti infantes. Une pureté sacramentelle qui rejoint la pureté essentielle des cœurs angéliques. Une cinquantaine d'années plus tard, Grégoire de Nice, évêque de Cappadoce, mort en 394, dira dans une homélie « Rejoignez le peuple baptisé et apprenez les paroles secrètes. « Dites avec nous ces choses que les séraphins à six ailes disent également en chantant une hymne de louange avec les chrétiens initiés. Selon le révérend père Taft, l'usage généralisé du Sanctus dans tout l'Orient ne se limitera pas au cadre liturgique de la vigile pascale. Les propos de Grégoire de Nice semblent bien confirmés à la fin du IVe siècle, une extension à toute liturgie eucharistique, rehaussant par là même le sens du baptême. En se conformant aux usages orientaux, la Rome chrétienne du Ve siècle pourra sans conteste chanter l'hymne du Sanctus avec la troupe entière de l'armée céleste. Le baptême est instrument du salut.